Le Spacecast présenté par Lévis Subaru. Viens découvrir le nouveau Lévis Subaru au 5085 Christophe Colomb Lévis, autoroute 20, sortie 325 Nord. La place pour ta nouvelle voiture. LévisSubaru.com.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de Choix Radio X. Bon ben, Grim, vois-tu comment qu'on est une agence de rencontre autodidacte? On a trouvé une dulcinée pour Sir Benjamin Slade parce qu'on a appris que la lionne du village tire de l'arme à feu.
Bon, voilà. Elle fait a que,
tout. Elle a tout. Il y a juste le bout, de se reproduire qu'on le sait pas.
Les deux garçons.
Ouais. C'est vrai.
Une fille, c'est pas correct.
Non, c'est ça, c'est vrai.
Deux gars.
Ben, si elle pond une fille... On en repart pour un gars. Comme Napoléon, dans le temps, il y a juste des filles qui sortaient, puis à un moment donné, bah, on va en prendre un autre.
Voilà.
On va en prendre un autre.
Voilà.
Yes. Hey! Très, très, très hâte de faire cette entrevue-là, parce que pour vrai, autant que le sujet m'intéresse, autant que c'est un de mes rêves dans la vie, là, ça fait longtemps que j'en parle sur les ondes, dans ma vie, je veux participer un jour soit à la création d'un dessin animé ou soit carrément réaliser une bande dessinée. Ça fait partie de mes grands rêves de vie. Genre, je m'imagine mal mourir puis pas avoir fait ça dans ma vie. T'sais. Fait que c'est pour ça que quand on parle à des gens qui font ça dans la vie, ça me fait complètement, mais complètement capoter. T'sais. Et en plus, le scénariste à qui on va... Le BDiste, le scénariste avec qui on va parler, arrive avec un nouveau bébé qui est un sujet que vous connaissez très, très bien si vous êtes un auditeur assidu du Spacecast ou même de Radio X, parce que je pense qu'à Radio X, on a tenté de redonner ou de donner, en fait, pas de redonner, parce qu'il était passé trop longtemps dans l'oubli, ses lettres de noblesse à Léo Major. Récemment, une statue a été érigée à Lévis et tout ça. On commence à donner la place dans notre culture qui lui revient. Puis je suis très content de voir apparaître des ouvrages un peu plus de type, t'sais, pas juste documentaire, juste entertainment, où on apprend de quoi aussi en même temps, de quoi un petit peu plus artistique qui peut attirer peut-être un œil jeune, mais aussi grand. T'sais. Et c'est pour ça que je suis très, très, très content d'aller rejoindre M. Frédéric Antoine, qui est scénariste, BDiste. On va aller le rejoindre, il est au bout du fil. Monsieur Antoine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, et vous?
Ah oui, très, très bien. Merci d'être avec nous ce soir, c'est très apprécié.
Ça fait très plaisir.
Dites-moi, votre passion de la BD, ça remonte à quand?
Oh, ça remonte à très loin. Moi, j'ai toujours lu de la bande dessinée. On avait, quand j'étais enfant, on avait une grande malle dans le grenier avec tout des classiques et de la BD franco-belge. Et j'ai commencé à apprendre à lire avec ça. Je l'ai regardé avant, puis quand j'ai appris à lire, j'ai continué. Et puis j'ai vu la deuxième lecture aussi, par exemple avec les Astérix. Et à fur et à mesure que je vieillissais, je continuais à les lire aussi.
Oui.
Et à découvrir toujours de nouveaux albums ou découvrir de nouvelles choses dans d'anciens albums.
C'est ce qui est le fun avec des BD de cette génération-là. Moi aussi, j'ai grandi en lisant des Tintin, des Astérix, puis on peut les voir un peu comme les Simpsons, on peut les écouter avec un œil enfant, comprendre quelque chose et le réécouter 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard avec nos yeux d'adulte et voir complètement autre chose.
Exactement, complètement. Il y a plusieurs... Astérix, c'est un bon exemple là-dessus. Là. En tant qu'enfant, on va lire ça, c'est coloré, c'est le fun, ça bouge, il y a des bagarres, il y a tout ça. Mais en tant qu'adulte, on voit toutes les petites blagues, qui soient sociétales ou de l'époque, ou même un jeu de mots qu'on avait raté. Mm-hmm. Et c'est ça qui est formidable dans ce genre de bande dessinée.
Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui a été déterminante pour vous, qui vous a dit, vous vous êtes dit, hey, maintenant que j'ai lu ça, je ne peux plus reculer, c'est ça que je veux faire dans la vie?
Oui, la bande dessinée, ça a été un petit peu difficile. À la base, je voulais dessiner. Et
okay.
Je suis très mauvais dessinateur. Donc, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de partir vers la scénarisation. Et si je devais parler d'une œuvre... J'ai toujours été un gros fan, et je les lis encore avec un énorme plaisir, les Spirou de Franquin.
OK, oui, OK.
Toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est là. Ce personnage-là, alors il y a eu des reprises, plus ou moins bonne, mais l'époque de Franquin, ça faisait partie de mes albums BD préférés, et je les relis les intégrales régulièrement. J'y apprends toujours une façon de présenter les personnages, de présenter l'action, une façon de narrer une dramatique, d'inclure de l'humour. C'est ce qu'on appelle maintenant, on utilise beaucoup ce mot-là, ça me fait un peu rire, c'est une masterclass.
Est-ce que vous... quand vous vous êtes rendu compte, ben en fait, c'est le genre d'affaire qu'on se rend compte très rapidement qu'on dessine pas bien. Là. Est-ce que, tu sais, quelles ont été les avenues pour poursuivre votre rêve, pour plusieurs, de se dire, bon, je suis pas capable de dessiner, ça pourrait être comme le point final au rêve de faire de la BD. Comment ça s'est passé, votre parcours?
En fait, moi, je suis parti dans le tourisme, en fait. J'ai fait des études dans le tourisme et j'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec la bande dessinée. C'était un peu un rêve d'enfant autant que d'être vétérinaire.
OK.
Et puis, donc j'ai immigré au Québec, je suis français d'origine, et j'ai fait une école de dessin animé en me disant « Ah, je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça ». En discutant avec une personne, elle m'avait comme un petit peu rassuré et motivé à faire ça. Donc j'ai fait une école de dessin animé. Ça s'est révélé encore une fois pas très bon au niveau du dessin, mais j'avais un certain talent de conteur, je pouvais regarder les dessins de quelqu'un et inventer une histoire. J'ai fait du jeu de rôle aussi, je faisais pas mal de scénarios en jeu de rôle. Donc, le principe de raconter, d'écrire des histoires était toujours là. Et finalement, j'ai voulu commencer à développer ça. Puis j'ai pris la rédaction de Safarir dans les années 2025-26.
Ah ouais, OK. J'ai grandi là, en lisant ça, waouh!
Ben oui, je sais, au Québec, c'est ça, et les débrouillards, c'est des institutions. Et finalement, j'ai travaillé dans Safarir et je travaille dans les débrouillards maintenant.
Est-ce que, curieux, Safarir, ça n'existe plus aujourd'hui?
Non, ça n'existe plus.
Qu'est-ce qui a été l'uppercut final de Safarir? Je pensais pas parler de Safarir avec vous aujourd'hui, là, mais comment ça s'est terminé, l'aventure Safarir? Sur Internet, bon, qui l'a
pense,
tué?
Mais je pense que c'est là, tout simplement, c'est très difficile avec la presse. Et puis l'internet a pris le relais et au bout d'un moment les budgets baissaient et remplir un magazine avec un budget qui baisse de plus en plus, c'était vraiment pas évident. Chapeau à ceux qui ont réussi jusqu'au bout à le maintenir, mais à un moment il fallait tout simplement arrêter, tout comme Cros a arrêté à un moment donné. C'est très difficile. Et puis il faut voir aussi qu'en tant que magazine de presse, par exemple, les débrouillards, c'est quelque chose pour la jeunesse, ça tourne dans les écoles, ça a des subventions.
Oui.
De l'autre côté, Safarir, c'était pas du tout ça, c'était non. Pour adultes. Puis les adultes, au bout d'un moment, lire des magazines, non, on est sur Internet. Et puis, il n'y a pas de subvention, et puis on peut plus tenir le navire à flot, donc on arrête.
Vous avez été derrière Biodome, Jimmy Tornado. Quelle a été votre première œuvre comme scénariste de BD, de BDiste?
Alors, j'ai commencé des petits scénarios de Biodome, justement dans les pages de Safarir. Mais mon premier véritable album, c'était El Spectro.
OK.
Que j'ai fait avec Yves Rodier chez Le Lombard.
Yves Rodier, qui était votre illustrateur?
Oui, c'était mon illustrateur. On s'était rencontrés justement quand on travaillait ensemble en dessin animé.
Est-ce que c'est important d'avoir une relation étroite avec son illustrateur ou bien c'est deux travails qui peuvent se faire en vase clos sans trop de communication?
Ça dépend. Moi, j'ai toujours travaillé en étroite collaboration, sauf pour Léo Major, où okay. Là, on travaillait avec un dessinateur argentin. Et dans le principe, alors c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Là, on a eu des petits soucis de dans le parcours, des changements de format. Et quand on s'est décidé à travailler avec Dante, la production devait aller vite. Là. Il fallait que l'album sorte vite. Donc, pour éviter un petit peu les allers-retours et ce genre de choses, c'est vraiment l'éditeur qui s'est concentré à superviser le dessinateur. Moi, j'étais là pour... je recevais quelques pages. Je regardais si tout fonctionnait, si au niveau de la... Ben, le plus important pour moi, c'est la narration, que tout fonctionne au niveau de la narration, que ce soit fluide et que ça joue bien. Et surtout de ne pas avoir, entre guillemets, trop d'erreurs historiques ou Quand je dis historique, ça peut être du background, des personnages, des réactions de personnages, du matériel militaire ou ce genre de choses.
Des trucs
On a essayé d'être un peu... J'ai essayé d'être un peu picky, mais en même temps, on ne peut pas tout... On ne peut pas tout réussir. Il se peut très bien qu'il y ait un costume à un moment donné qui ne soit pas exactement le bon, mais on a fait au mieux. On avait d'ailleurs... Moi, j'avais un contact étroit avec le musée du régiment de la Chaudière à Lévis.
Ah, oui, OK. Ben oui, ici, dans notre cours. Quel est le niveau de liberté que vous avez avec c'est avec Glénat que vous avez fait affaire, est-ce que
oui,
je me trompe?
Oui, Glénat-Québec.
Glénat-Québec. Comment... Tu sais, le niveau de liberté, là, est-ce que vous avez votre mot à dire sur le dessinateur, sur le type de dessin? T'sais, au départ, quand le Glénat se met à chercher... un illustrateur, est-ce que vous lui dites « je cherche quelque chose d'un peu plus cartoon » de ce que j'ai vu, vous êtes assez dans des teintes plus sombres un peu. C'est super beau, mais on est ailleurs que, mettons, avec Jimmy Tornado pour des raisons évidentes. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur le choix du dessinateur?
Ben, au moment où on avait un dessinateur qui s'est désisté,
okay.
Donc, c'est moi qui l'avais amené, celui-ci. C'était quelqu'un que je rencontrais fréquemment dans les festivals et on se connaissait bien. Puis, il s'est désisté pour des raisons personnelles. À partir de là, il a fallu en chercher un autre dessinateur. J'avais un contact avec un Italien qui semblait pouvoir faire la job. Mais Dante avait déjà fait des ouvrages chez Glénat Québec. À l'époque, c'était Les Berniers.
Okay.
Une bande dessinée sur la saga des Berniers. Et finalement, l'éditeur m'a dit que ce serait peut-être bien de travailler à nouveau avec Dante. Il aimait bien son tracé. Puis surtout, Dante a quelque chose d'un petit peu... alors, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, d'un peu crasseux.
Mm-hmm. Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
C'est du trait épais. Donc, ça crée une ambiance. Et je pense que pour ce genre de récit, c'était parfait. Mm. Ça fonctionne très bien. On a cette impression, entre guillemets, de sale guerre.
Est-ce que c'est difficile de nos jours de trouver un illustrateur de bande dessinée qui, d'un, qui a du talent, puis de deux, qui le fait encore malgré toute l'intelligence artificielle,
ouais,
puis,
ben oui.
Tout ce qu'on peut voir, là, l'art qui est comme rendu extrêmement facile à faire, même si on le sait tout, là, on le voit quand c'est fait par l'intelligence artificielle, puis c'est dégueulasse, là. Mais est-ce que ça cause des problèmes? Est-ce que c'est plus dur d'en trouver de nos jours des illustrateurs qui ont du bon sens?
Non, je pense que c'est la même chose qu'avant. C'est toujours une question de « tiens, celui-là, il est bien, j'aimerais bien faire quelque chose avec. » On discute, puis c'est une question de timing. Non, j'ai déjà deux albums en préparation avec tel éditeur. Ah ouais, moi, ce serait pour commencer dans deux mois. Moi, je ne serais pas libre. On en cherche un autre. On essaie de voir. L'intelligence artificielle ne nous dérange pas tant que ça parce que dans la bande dessinée, on refuse l'intelligence artificielle.
J'aime ça. Ça, vous venez de confirmer que l'entrevue peut se poursuivre.
oui, non, mais sérieusement, c'est quelque chose qui a... Il y en a qui veulent éventuellement faire de la bande dessinée en intelligence artificielle, mais il n'y a aucun éditeur qui va réellement prendre ça, là. Après, c'est sûr qu'il faut chercher aussi un dessinateur qui se fonde dans le récit.
Oui.
Donc, j'irai... Par exemple, pour faire Léo Major, je ne serais pas allé chercher Johan Morin, avec qui je fais Biodôme, qui, lui, est spécialisé plus dans de l'humoristique. Il y a des auteurs, il y a des dessinateurs qui peuvent autant faire l'un que l'autre et changent complètement de style d'une BD à une autre. Et puis, il y en a d'autres qui sont ancrés dans leur style et qui restent là-dedans et puis qui aiment travailler dans ce genre de style. Bon. Donc, quand j'écris quelque chose d'historique, ben, on peut prendre mon précédent que j'ai fait avec Voro. Voro a un style très, très bien ancré, très classieux.
Avec L'Espion de trop, c'est ça?
Oui, L'Espion de trop, tout à fait. Mmh. Et on avait un récit de fiction sur un espion allemand. Et c'est très propre. Voro a un dessin très propre, okay. Très franco-belge, je dirais des années 80-90. Début 2000. Dante est plus dans le roman graphique.
Oui, exact. Et parlez-moi
quelque chose
un peu
de plus...
Comment...
Vas-y, dites-moi.
Comment est arrivée l'idée de Léo Major? Pourquoi Léo Major? Est-ce que c'est une commande qui vous est passée ou c'est vous qui arrivez avec le projet?
En fait, c'est les deux à la fois. Parce que moi, en faisant mes recherches pour L'Espion de trop, j'ai découvert plein de choses. Hein. J'ai découvert plein de choses qui sont propices à faire des albums de BD. C'est incroyable que ce soit les camps de prisonniers allemands du côté de Sherbrooke, Un espion qui était un espion allemand qui était à Toronto et qui a absolument rien fait. Il jouait au ping-pong dans un hôtel avec les soldats canadiens. Vraiment, j'ai découvert plein de choses. Et au milieu de tout ça, oui, il y a Léo qui est sorti. Je fais « Ah, c'est qui ce gars-là exactement ?» Et j'ai fouillé, j'en ai parlé à l'éditeur, mais l'éditeur lui-même avait déjà l'idée de faire quelque chose avec Léo Major. Donc, on s'est retrouvés finalement sur ce thème et de vouloir travailler à nouveau ensemble sur ce personnage.
Léo Major, le fantôme borgne, comment vous vendriez votre salade à quelqu'un qui veut peut-être le lire, qui a de l'intérêt, soit... Premièrement, c'est destiné à quel public? Et est-ce qu'on est, comme dans L'Espion de trop, avec une part de fiction ou on est carrément dans le récit historique, mais avec un support artistique et visuel?
C'est une bonne question. Parce que le public, c'est toujours difficile. On ne sait jamais. Il y en a qui vont dire « Ah tiens, on veut toucher les ados, etc. » Mais oui, mais toucher les ados, malheureusement, c'est des lecteurs de manga. C'est très difficile de les avoir dans la bande dessinée. Mm-hmm. À part si, enfants, ils aimaient ça et qu'ils ont continué. Mais généralement, il y a une rupture. Ils y reviennent après. Mais il y a une sorte de rupture à ce moment-là. Moi, j'aimerais bien, c'est sûr, que les ados puissent l'avoir. J'aimerais que ce livre-là aussi soit dans les écoles, dans les bibliothèques, pour au moins souligner cet homme, l'existence de cet homme et ce petit travail de mémoire qu'il y a derrière. Mm-hmm. Après, j'ai complètement oublié le reste de votre question.
Ah, ben je vous demandais si vous aviez... en fait, comment... Si on était sur un récit factuel ou s'il y avait une part de romance.
Ben, à partir de là, on pouvait faire deux choses. C'est sûr, une complète fiction pour faire quelque chose, un récit, je dirais, d'action, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets aujourd'hui. Un récit d'action ou du didactique. Et moi, j'aime bien mêler les deux. Okay. Donc, c'est-à-dire avoir un récit entraînant, mais qui en même temps va nous faire découvrir que ce soit la thématique ou le personnage.
Avez-vous discuté avec de sa famille? Je sais qu'il y a de la famille de M. Major qui est encore en vie.
J'ai discuté un petit peu avec Denis Major, qui m'a donné quelques pistes. J'ai discuté aussi avec l'historien qui avait fait le livre sur Léo Major il y a quelques années chez Urtubiz.
Okay.
Et j'ai discuté beaucoup avec le musée du régiment de la Chaudière, les personnes du musée, qui m'ont permis de... Ce qu'il y a de bien dans les recherches pour quelque chose d'historique, moi j'aime beaucoup faire de la recherche justement pour la Seconde Guerre mondiale, on trouve plein de choses et puis on trouve d'autres anecdotes qui ne sont pas dans ce récit-là mais qu'on va pouvoir rajouter pour un petit peu nourrir et mettre un petit peu de chair autour de tout ça et finalement accéder à une œuvre qui va être... On a mis un petit peu de fiction parce qu'il fallait. On n'a pas toutes les informations. Léo Major a parlé de tout ça bien plus tard après ses exploits. Mm-hmm. C'est un principe chez lui, c'était aussi sa mémoire. Alors, est-ce que c'est les bonnes dates? Il fallait aller chercher tout ça. Quel bateau il avait pris? Finalement, j'ai trouvé... On parle beaucoup d'un bateau qu'il l'aurait amené en Angleterre avec le reste du régiment de la Chaudière. Mais en fait, en faisant ma recherche et grâce au musée de la Chaudière, on a découvert que ce n'était pas ce bateau-là, c'en était un autre.
Oh oui, okay.
Qui est parti, je pense, la veille ou le lendemain, je ne sais plus exactement. On a frété des bateaux de croisière, on a enlevé toutes les tables dans le lounge, on a enlevé tout et on mettait les militaires là et vouf, on les amenait en Angleterre.
Ok.
Donc, j'ai essayé de mêler un petit peu tout ça pour montrer un homme quelque peu complexe et puis montrer son parcours qui dépasse. Alors, c'est un parcours qui dépasse la fiction, mais en même temps, il faut un petit peu en rajouter pour que ce soit plaisant à la lecture. J'ai essayé de mettre un petit peu d'humour. J'ai essayé de mettre ce relationnel qu'il a avec son ami Willy Archambault.
Arsenault.
Oui. Arsenault, tout à fait. J'ai essayé de montrer aussi que ce qui s'est passé avec son père a influé quelque part sa relation aussi. Probablement avec le Major Taschereau.
Ah oui, ok, c'est intéressant. Toujours...
Ben, j'ai réfléchi à ça, ça m'est venu il n'y a pas si longtemps que j'ai réalisé que c'était quelqu'un d'assez rebelle, il n'aimait pas l'autorité, mais c'était un militaire, donc il suivait les ordres. En fait, je pense qu'on parlait qu'il n'aimait pas l'autorité, mais il n'aimait pas l'autorité abusive et l'autorité illogique. Mmh, oui. Et là, ça devait venir justement du fait qu'il était dans sa jeunesse, il a été maltraité par son père et rabaissé. Il le considérait comme un voyou. Ce qu'il a peut-être été durant gamin, il a peut-être fait les 400 coups. Et pour un père de famille, c'est « Ah, mon gamin est un voyou.
» Ouais. Et finalement, donc, ça s'est avéré être un héros, quand même. Ironie du sort.
Et finalement, ça s'est avéré être un héros. Et je pense qu'il est devenu un héros parce qu'il était profondément humain. C'est un soldat parmi tant d'autres qui s'est retrouvé à des endroits. Il avait une certaine volonté. Et justement, il avait cette fougue.
Mm-hmm. Ah oui, c'est...
Cette fougue et derrière une certaine humilité. Il n'a jamais voulu être un héros. Si on regarde bien le personnage et tout ce qu'il a fait, ce gars-là n'a jamais voulu être un héros. C'est juste qu'il faisait son travail de militaire.
Il a même caché un certain point. Quand on lui posait des questions, apparemment, il disait « Si je vous le racontais, vous ne me croiriez pas. »
Oui, tout à fait.
Spectaculaire.
Et puis il est rentré aussi avec... Il est rentré comme tout militaire qui va dans une guerre... je vais encore redire le mot « sale ». Il est revenu avec ses traumatismes aussi.
Ben oui.
On le souligne dans l'album quand il réalise qu'il a... il fallait qu'il déloge des snipers et les deux snipers se sont révélés des enfants de 14-16 ans.
Ouais. Cette bande,
c'est dur.
Cette bande dessinée-là, si on veut se la procurer, évidemment, j'imagine que c'est trouvable papier. Est-ce que c'est trouvable numérique aussi? Et est-ce que de nos jours, la bande dessinée suit bien le virage numérique que plein de livres prennent? Tu sais, il y a des romans à cette heure avec Audible qu'on peut se faire lire carrément sans les lire. On peut juste les écouter. La bande dessinée, j'imagine, c'est un peu plus complexe à ce niveau-là.
C'est plus complexe et je connais très peu de personnes qui aiment lire de la bande dessinée en numérique, à part les lecteurs de manga.
De manga, hein, ouais. Mm-hmm.
Parce que quelque part, ils vont lire des scans, c'est-à-dire des mangas traduits déjà à l'avance par des adeptes. Là, c'est du fan, de la fan traduction.
Oui.
Et donc, ils ont, si un One Piece sort au Japon, ben, quelqu'un va le récupérer, faire des scans et puis le traduire lui-même de la façon qu'il peut, avec ses notions de japonais, et puis il va le mettre en ligne. Donc, il y a quand même pas mal d'ados qui vont lire en ligne éventuellement, donc que ce soit de la fan traduction ou que ce soit de l'officiel. Par contre, des vrais lecteurs de BD, non, ils ont besoin de l'objet.
Ouais.
Besoin de l'objet. Même moi, en étant au Japon, j'ai parfois besoin de lire quelque chose et puis je n'ai pas de bibliothèque avec les livres ici, donc je vais me le procurer en numérique. Et c'est pas agréable. Déjà, on ne peut pas le lire sur une liseuse et si on le lit sur un iPad, le format fonctionne bien, par exemple, avec un comic book, éventuellement. Vous savez, les comic books ont des formats un peu plus courts. Mm-hmm. Mais si on veut lire, par exemple, le dernier Torgal sur une, sur une tablette, c'est un peu difficile. Les lecteurs de bande dessinée aiment avoir l'objet entre les mains.
Vous l'avez effleuré assez rapidement, là, mais la traduction, là, on parlait du côté des mangas. Par contre, vous le faites aussi, mais sur des comics de Disney, de Marvel, et j'imagine plein d'autres choses. Là, mais traduire d'une langue à une autre, un comic, une bande dessinée, à quel point c'est compliqué de garder tout le sens des phrases?
L'essence des blagues, ouais. Hein, souvent, il y a une linguistique qui est utilisée. Ouais.
Ah ben justement, ma première vraie traduction, c'était c'était une BD sur le Muppet Show pour Presse Aventure. Et y avait des chansons en anglais, donc qui étaient un petit peu changées, qui étaient humoristiques. Il y avait plein de blagues, plein de situations et en anglais. Et il fallait qu'en fin de compte, que j'adapte. Il faut, en bande dessinée, et à partir du moment beaucoup où il y a de l'humour, il faut faire de l'adaptation. Pour que justement ce soit récupérable. Une blague en anglais n'est pas traduisible mot à mot en français. Donc on va trouver une alternative, on va faire en sorte que ça fitte avec la thématique. Moi j'avais, c'était quoi? C'était une chanson, là, un des personnages de Muppet Show chantait de All's Merry Mobile. All Mary Mobile. C'est une chanson qui date de 1929, une chanson américaine. Okay. Qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Mais non.
Personne ne connaît. À la limite, je vais mettre un peu d'humour. Et là, je me suis dit, je vais aller prendre une chanson que les Québécois connaissent éventuellement, poc, 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 dans ma Camaro bleue. Et j'ai fait de l'humour avec cette chanson-là, qui était un petit peu plus accessible, tout en étant quand même... c'est pas tout le monde qui va la connaître, et sûrement pas les jeunes, mais au moins, je me rapprochais un petit peu de mon lectorat. Et avec le manga, on a la même chose. Je traduis du manga avec ma compagne. Et il y a beaucoup de subtilités en japonais. Et elle, son but, on travaille à deux. Elle me traduit vraiment, pas mot à mot, mais elle m'explique exactement ce qui se passe pour que moi, je puisse faire une adaptation en français avec un langage jeune, parce que c'est un manga qui touche les jeunes. Et automatiquement, il faut qu'on travaille sur, un peu sur l'adaptation, sans trahir le texte d'origine, mais en faisant en sorte de le mettre accessible.
L'essayeriez-vous produire un manga en francophone en partant, ou vous pensez que c'est une essence qui est limitée au Japon?
Alors, il y a des mangas qui sont faits par des Français, mm-hmm. 100%. Et on a même un manga québécois qui s'appelle Les Élus d'Eljune, si je me souviens bien, qui est 100% québécois, et c'est un manga. Donc oui, la chose peut se faire. Maintenant, oui, avant c'était réservé, c'était un style, c'était des codes, il fallait les connaître. Là maintenant, on a même un manga qui s'appelle Radiant, qui est un gros best-seller. Et c'est un Français qui est français maintenant, qui vit au Québec depuis quelques années, qui travaille sur Radiant et qui a complètement assimilé tous les codes. Si vous regardez l'un ou l'autre, un Japonais et son œuvre à lui,
ni vu ni connu.
Ah oui, c'est vraiment, vraiment minime. Le gars a vraiment assimiler tous les codes.
Bien, Monsieur Antoine, ça a été très intéressant comme conversation. Évidemment, j'invite nos auditeurs à aller se procurer votre dernier album. Et moi, je suis de votre avis. C'est le genre de truc qu'on veut. On le veut dans nos mains parce qu'on le veut l'avoir dans notre collection, dans notre bibliothèque. On veut le voir après l'avoir parcouru ces 152 pages. On veut l'avoir dans notre bibliothèque pour que ça décore la maison, parce que c'est une pièce d'art en soi, trouvable dans toutes les bonnes librairies. Sinon, travaillez-vous sur quelque chose actuellement? Y a-t-il un autre? Restez-vous dans l'historique pour votre prochaine œuvre?
Oui, je vais être encore un peu dans l'historique. En fait, j'en ai un historique, j'en ai un de historique-fiction, donc un qui se déroulerait au Japon.
Okay.
C'est pour ça un peu que je suis là et que je fais mes recherches. Et un autre qui parlerait de ce fameux Montréal des années 40-50, ce fameux Montréal un peu fou de cabaret, de striptease et de mafia.
Ah, ben oui.
Je suis en train de regarder ça, j'ai fait pas mal de recherches et il y a quelque chose de très intéressant sur cette époque aussi qui existait, et que soudain il y a eu un changement politique et tout a complètement reviré. Et je trouve ça très intéressant de voir comment ça se vivait à l'époque et comment il y a eu ce virage.
Et on va suivre
avec Monsieur Drapeau.
On va suivre ça, Monsieur Antoine. Un gros merci, puis la meilleure des chances pour la suite des choses. On garde contact. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Bye bye. Bonne soirée.
Salut. Au revoir.
C'était Frédéric Antoine, qui est scénariste, BDiste. Je trouve ça intéressant, justement. Moi, j'aime beaucoup les BD, les romans graphiques, puis qu'on parle de Léo Major, c'est le fun, parce que ça rend accessible à des publics qui peut-être veulent pas se taper un documentaire, ou, tu sais, des fois, c'est un peu épeurant, un documentaire avec les images d'archives, toute la patente, là. Les vieux monsieur qui parlent de leurs souvenirs de guerre. Je comprends que c'est pas sexy pour tout le monde. Moi, j'aime bien ça, mais je peux comprendre que c'est pas si commode. Fait que de quoi comme ça, colorer tout ça, non, c'est vraiment ça coche. Je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine.
Hey, juste avant qu'on aille à la pause, parce qu'on est quand même une émission de service.
C'est vrai.
Premièrement, si vous êtes sur la 73, à la sortie Beaulieu, vous allez voir un troc complètement dans le clos et vous allez entendre... Ah, mon don, le pote.
Ah ouais?
Voilà. Et ensuite, si vous êtes sur Henri IV, direction Nord, à partir de Capitale jusqu'à Industriel, c'est la merde à cause des travaux. Voilà.
Mais ça, c'est pas dangereux. Il faut interdire le Red Bull.
Ouais, exact.
Les ding-a-ding-a-ding sur nos routes, ça, c'est complètement correct.
Le Red Bull.
Allez, on revient.
Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.